autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour passer cette deuxième semaine de rediffusion estivale sur le continent africain. Première escale à Dakar, où nous étions en novembre dernier, pour une émission spéciale et spatiale consacrée à l'astronomie. La tête dans les étoiles, depuis le laboratoire de géologie de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, sur le campus de l'université Cheikh Diop. Nous nous étions demandé comment soutenir l'initiative africaine pour les sciences astronomiques et spatiales, comment construire des observatoires au Sénégal, comment promouvoir l'astronomie et l'enseignement de l'astrophysique au sein des universités sénégalaises où cette filière n'existe pas encore, alors que l'on sait pourtant l'intérêt des étudiants et l'impact de ces sciences fondamentales sur le développement. Pourquoi le continent africain, un cinquième de la population mondiale, est-il quasiment exclu de ces domaines de recherche ? Autant de questions d'actualité que relèvent avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme nos invités. Maram Kéré, président de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal, et le géologue et planétologue David Baratou de l'IRD autour de la question qu'est l'astronomie pour l'Afrique. Bienvenue pour écouter cet entretien croisé et mixé sous le ciel de Dakar par Marc Fichet. Bonjour Maram Kéré.
Bonjour.
Bonjour David Baratou.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici dans vos bureaux à l'IFAN, à l'université Cheikh Diop, dans ce laboratoire de géologie autrefois dirigé par Théodore Monod. Alors dans ce laboratoire, on est entre des pierres géologiques et puis un meuble en bois dans lequel est rangé. Si on pousse le regard un petit peu au loin, on peut presque apercevoir la mer, la corniche ouest. Maram Kéré, vous êtes ingénieur informatique de formation, passionné et féru d'astronomie, président de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal, une passion que vous défendez désormais au sein du cabinet du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, où vous êtes conseiller technique chargé de la promotion de la culture scientifique, et vous agissez sur tous les fronts, à la fois celui de la vulgarisation de l'astronomie, à travers des festivals, Pluie d'étoiles à Dakar, Saint-Louis sous les étoiles, le bus de l'espace ou la mise en place prochaine d'un planétarium, mais aussi une journée d'astronomie ici, à l'UCAD, pour monter des filières et encourager les vocations, sans oublier la construction d'un observatoire astronomique à Mbour sur le site de l'Institut de recherche pour le développement. Il y a tout à faire, Maram Kéré, et tant à faire pour l'astronomie et les sciences de l'espace ici au Sénégal.
Écoutez, oui, je pense que c'est la bonne formulation, tout est à faire. C'est un gros chantier qui est non seulement un gros défi, mais en même temps la réalisation d'une passion, d'un rêve. Et c'est un rêve qui est partagé aujourd'hui par des milliers de jeunes Sénégalais. Je pense que ça commence déjà au niveau même de l'enseignement. Faire en sorte que l'astronomie ait une place beaucoup plus importante dans le système éducatif. Pour donner un exemple aujourd'hui, c'est... très rapidement qu'on parle du système solaire en classe de seconde, mais en dehors de ça, voilà, ça s'arrête à ça, et on se retrouve donc avec toute une masse de jeunes Sénégalais qui sont intéressés par les étoiles et qui ne peuvent pas poursuivre de filière d'études dans ce domaine parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce que ce n'est pas enseigné ni dans les universités, et donc tout est à faire, et c'est ce chantier en fait qui nous passionne, pour lequel nous mettons en tout cas tous les moyens pour arriver à ce développement de l'astronomie au Sénégal.
On y reviendra, hein, parce que vous y passez beaucoup de votre temps, Maram Kéré. David Baratou, vous êtes géologue et planétologue, une double casquette qui vous a conduit ici à Dakar. Après avoir arpenté l'Afrique de l'Ouest et exploré à distance le sol de la planète Mars, vous êtes désormais directeur de recherche à l'IRD, ici à l'IFAN, où vous poursuivez vos recherches, vos activités de formation et d'enseignement, à la fois en géologie et en planétologie dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes, David Baratou, l'initiateur de cet appel à soutenir l'initiative africaine pour les sciences planétaires et l'espace, signée par de nombreuses personnalités et organismes scientifiques internationaux et panafricains. Vous en attendez quoi ? Vous voulez quoi de cette initiative pour promouvoir l'astronomie et les sciences de l'espace en Afrique ?
Alors d'abord, effectivement, je me suis retrouvé à Dakar ici avec cette double casquette, et en fait, je crois simplement avoir répondu à une demande des collègues sénégalais que j'ai rencontrés, et puis plus largement en Afrique de l'Ouest et même au travers le continent, qui est cette demande de développer l'astronomie. Et donc, petit à petit, ce projet d'initiative a vu le jour, notamment au cours d'un congrès en Afrique du Sud. Et alors, la première étape a été de faire cette démonstration qu'il y a à la fois une communauté scientifique en Afrique qui est demandeuse, qu'il y a des groupes qui sont parfois isolés, parfois sous-financés, mais qui veulent démarrer dans leurs universités des programmes de recherche dans ce domaine, qui ont des étudiants qui sont désireux de trouver des formations et qui ne les trouvent pas actuellement. Et puis de l'autre côté, de faire la démonstration aussi qu'il y a une communauté internationale qui est prête à s'investir, à donner de son temps, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Asie, en Amérique du Sud, pour partager cette aventure humaine avec des collègues ici en Afrique, de développer ces sciences de l'astronomie, des planètes et de l'espace. Cette première étape est plus ou moins faite aujourd'hui, puisqu'on a un peu plus de 250 signatures actuellement de cet appel. Donc on a déjà fait cette démonstration.
Pour que le continent justement ne soit pas exclu de ce domaine de recherche pluridisciplinaire, on va y revenir, hein. Autour de quelle astronomie en Afrique, sur le continent en général et au Sénégal en particulier, je vous propose de faire un rêve ensemble avec Awadi sur RFI. Martin Luther King, remixé par Awadi sous le ciel de Dakar, c'est votre proposition, Maram Kéré, dans mon rêve.
We know the battle ahead will be long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
I have a dream.
Dakar.
One day.
92 FM.
This nation will.
J'ai fait le rêve que le peuple se lèvera dans mon rêve. Cette fille se lèvera dans mon rêve. Lui, le fils se lèvera main dans la main. La mère se lèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs. C'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs. Des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y'a pas d'homme qui est dominé. Pas de peuple qui est dominé. Pas de terre qui est dominée. Et l'état tous et la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés. Colonies éliminées. J'abolis les colonies d'années de la terre. Toutes les colonies dans mon rêve, le racisme éliminé. Xénophobe éliminé, homophobe éliminé, antisémite et gamite éliminé.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Yes, we can.
Dans mon rêve, à Ouadi, sur RFI, à Dakar, à Lifan, cher Anta Diop, au laboratoire de géologie où nous sommes, en compagnie du géologue et planétologue David Baratou de l'IRD et de Maram Kéré, président de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal. Vous aussi, vous avez un rêve, Maram Kéré, un rêve qui ne date pas d'hier. L'astronomie, c'est votre passion d'enfance.
Oui, et je peux dire que ça a commencé très tôt. Je pense à l'âge de... C'est vraiment à l'âge de 12 ans, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie. À l'époque, avec pas mal de difficultés. La première, c'est qu'on n'est pas souvent compris quand on parle des étoiles, en fait, dans un pays où on a d'autres préoccupations. Et les soirs où vous êtes là à regarder les étoiles, où les gens pensent en fait que vous avez perdu la tête. J'avais beaucoup d'amis qui, voilà, le soir c'était on va danser, on va faire telle ou telle chose. Et moi je restais assis
pour
sur le
trottoir. Pour
observer le ciel. Pour observer le ciel. Et donc on me disait, bon, à la limite c'était Monsieur Météo. Il confondait en fait l'astronomie et la météorologie. Voilà, donc j'avais un rêve. Mon rêve c'était de pouvoir partager cette passion que j'avais pour l'astronomie ici au niveau du Sénégal. Voir d'autres jeunes peut-être se lancer dans ce domaine et peut-être bien plus tard avoir toutes les infrastructures nécessaires pour l'enseignement de l'astronomie. J'ai poursuivi ce rêve, j'y crois toujours fermement, ça commence à être une réalité.
Et vous avez poursuivi ce rêve malgré tout, vous avez poursuivi des études d'informatique, je crois que c'est votre père trouver ça plus utile ici au Sénégal, mais vous avez réussi à poursuivre quand même votre rêve. L'informatique, les mathématiques servent évidemment pour toutes ces sciences astronomiques et astrophysiques.
Tout à fait. Alors, peut-être qu'il ne va pas aimer que j'en parle tout le temps, mais avec le recul, je pense qu'il avait raison, parce qu'il voulait que je fasse quelque chose qui puisse me servir avant tout aussi. Je prenais la décision de revenir au Sénégal.
Vous avez fait vos études
J'ai fait
France.
Les études à Paris, et donc jusqu'en classe de terminale, c'était une discussion assez tirée par rapport au choix qu'il fallait faire. Moi, je voulais faire astrophysique. Lui, il me disait, bon, Le jour où tu décides de revenir au Sénégal, tu n'auras pas de travail. Quand on est passionné, têtu, voilà, pour moi, c'était l'astronomie et rien d'autre. Et j'ai bien fait, je pense, d'avoir suivi son conseil parce que mon option a été de revenir tôt ou tard au Sénégal. L'informatique, ça me permet aujourd'hui de pouvoir faire du travail en astronomie parce que c'est l'épine dorsale même de tout ce qui se fait aujourd'hui en astronomie. Et derrière, la passion, elle est restée. Après presque 10 ans à Paris, je suis revenu au Sénégal avec comme ambition première de développer l'astronomie au Sénégal. Donc les deux sont restés toujours liés et je ne regrette pas.
C'est ce que vous êtes en train de faire, hein, développer l'astronomie au Sénégal. Ce rêve est en train de devenir réalité. Et pour le permettre, vous avez le soutien de nombreux chercheurs internationaux, on l'a dit. Je propose d'écouter l'éclairage de l'astrophysicien Jean-Philippe Uzan, qui était récemment notre invité. Il a une question à vous poser, même si elle est plus spécialement adressée à David Baratou. Et pour cause, on écoute Jean-Philippe Uzan.
Alors, cher président, je dis président parce que donc David, tu es le président de l'Uranoscope de France. C'est ton secrétaire général qui te pose une question, puisque on vient de reprendre le bureau de cette association dont le but est de développer l'astronomie dans les pays en voie de développement et en particulier en Afrique, puisque tu t'investis beaucoup en Afrique, comme moi qui ai vécu en Afrique du Sud en particulier. Comment est-ce que tu vois en fait cette collaboration? Qu'est-ce que tu penses que l'Afrique peut avoir à gagner de développer l'astronomie? Et je vais poser la question d'une façon un peu polémique comme on nous la pose souvent. Tu sais très bien que j'ai quelques réponses à ça. C'est, est-ce que c'est utile de faire de l'astronomie dans des pays en Afrique alors qu'il y a d'autres problèmes à résoudre? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Et comment est-ce qu'on arrive à défendre le fait que l'astronomie, que la recherche fondamentale est très importante pour l'Afrique?
Comment répondre à cette question, David Baratou?
Merci Jean-Philippe de m'avoir posé cette question. C'est effectivement une question qu'on nous pose souvent. Et moi, j'ai souvent trois niveaux de réponse à cette question. Un premier qui est implicitement, cette question, elle suppose qu'on associe le fait de faire de l'astronomie à la richesse d'un pays. C'est quand on a de l'argent qu'on peut investir dans un luxe que serait l'astronomie. Et là, je retourne cette question assez souvent. C'est plutôt l'inverse. C'est que justement, quand on investit dans ces sciences fondamentales, on arrive à se développer et à continuer de faire prospérer un pays. Le deuxième niveau de réponse, c'est aussi de dire que cette science, elle attire. C'est techniquement un petit peu d'expliquer pourquoi l'astronomie, qui est une science qui est par essence très multidisciplinaire, donc qui fait travailler ensemble des physiciens, des chimistes, des biologistes, des informaticiens, des spécialistes de la donnée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile au développement. Donc là, c'est très facile d'expliquer pourquoi l'astronomie peut intervenir après et favoriser le développement. Et puis, c'est aussi, bien sûr, une science qui attire, donc qui incite des jeunes à se jeter dans des carrières scientifiques. Et ça, l'Afrique en a besoin. Et puis, la dernière niveau de réponse aussi, c'est que moi, je suis là pour répondre à une demande. Et qui je serais pour décréter qu'un pays en développement et que les collègues, quand je vois la soif de Maram de développer l'astronomie, quand je vois aujourd'hui les étudiants que j'ai choisi d'encadrer avec beaucoup de risques dans ce domaine-là, avec l'énergie qu'ils vont dépenser pour accéder à ces formations en astronomie, pour avoir accès à une thèse, qui je serais pour leur décréter que parce que leur pays est assez pauvre, est trop pauvre, ils ne pourraient pas faire d'astronomie? Non, je préfère soutenir avec les moyens, effectivement. Il faut être raisonnable, les moyens qu'on a dans ces pays, mais on peut identifier des choses qu'on peut faire et l'Afrique peut contribuer à l'astronomie à un niveau international, à un niveau scientifique élevé.
Maram Kéré.
Écoutez, dans la même lancée, je pense qu'il y a un élément qui est important, en fait, dans ce que dit David, c'est l'aspect multidisciplinarité, en fait, de l'astronomie. Aujourd'hui, on a une tendance à renverser ici au niveau du Sénégal. Je parle du cas du Sénégal, mais c'est peut-être vérifiable dans les autres pays. C'est qu'on n'a pas la masse critique de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens dans nos universités. Il faut qu'on arrive à avoir toute une génération de scientifiques pour pouvoir relever le défi du développement de l'Afrique. Et l'astronomie est une de ces sciences, en fait, qui a cette capacité à faire rêver les jeunes, à leur donner envie de devenir demain des scientifiques.
Alors, c'est une manière à la fois au départ d'attirer des jeunes scientifiques. Exactement. C'est vrai que quand on regarde le ciel, quand on écoute parler des astronomes, quand on a la chance d'aller dans un observatoire, on en revient fasciné.
Exactement.
Et c'est aussi un levier ensuite pour justement les former.
Pour les former, les spécialiser. Pour l'Afrique, je donne un cas simple. Aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le domaine satellitaire, c'est demain des gens qui sont passionnés d'astronomie, qui vont se spécialiser par exemple dans les métiers de l'espace et qui pourront demain travailler dans le le domaine satellitaire, qui vont servir à l'agriculture, à l'élevage, à la surveillance des frontières. Il y a énormément d'applications qui sont là pour les besoins immédiats du continent.
Donc c'est à la fois une science fondamentale, donc l'intérêt de la connaissance, de la beauté du ciel, de comprendre est fondamental, mais c'est aussi une science qui a aujourd'hui énormément d'applications pratiques, nos GPS,
exactement,
nos satellites.
Et si je dois rapidement revenir sur quelle astronomie, je dirais déjà à trois niveaux en fait, que ce soit populaire, qu'on puisse aller vers les populations, expliquer, parce qu'il y a beaucoup de confusion quand on parle d'astronomie ici au Sénégal.
Avec l'astrologie
Avec l'astrologie, l'astronautique, il nous arrive de faire des communiqués et vous voyez après dans la presse, les astronautes sénégalais ont dit
c'est vous pas êtes les astronomes. Vous n'êtes
voilà,
pas astronaute.
Je suis pas astronaute.
Pas encore.
Mais je pense que je suis un peu trop vieux pour ça. C'est les générations futures qui auront dans l'espace. Alors, déjà, cette astronomie populaire, aller vers les populations, leur parler de cette science, que ça apporte et ce que ça fait. À un autre niveau, donc, le deuxième point, ce sera l'éducation, que ce soit vraiment enseigné de façon continue dans tout le cycle des élèves et des étudiants. Et troisièmement, qu'on puisse les orienter à se spécialiser vers la recherche. Donc, c'est à ces trois niveaux-là, je pense qu'il faut qu'on intervienne pour pouvoir avoir une astronomie.
Je propose de méditer sur ces trois niveaux pour l'astronomie en Afrique au son de Mélodie Gardot sur RFI, les étoiles.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, qui vous regardera. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rado, lado.
Les étoiles, Mélodie Gardot sur RFI, les étoiles de ce ciel de Dakar où nous sommes. Observer les étoiles justement sur la terre d'Afrique et depuis la terre d'Afrique, observer le ciel d'Afrique, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier tout de même. Est-ce qu'on observe autre chose d'ici autrement? Est-ce que l'astronomie sur le continent, ça pourrait permettre d'aller plus loin, de voir d'autres cieux? David.
David. Bon, y a quelque chose que j'ai envie d'aborder ici, oui, parce que c'est vrai que il y a des situations où des événements astronomiques se produisent exclusivement sur une zone, une région du globe. Si ça tombe sur l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure pour observer. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des équipes de scientifiques internationaux qui vont venir avec leurs télescopes, les planter là pendant quelques jours, quelques semaines et repartir. Quel bénéfice pour le développement du Sénégal? Aucun, ou très peu. S'ils ont la chance d'être associés, ce qui n'est pas toujours le cas.
Voilà pourquoi il faut développer ici,
donc,
sur le continent,
des raisons.
Des moyens d'observation et des observatoires.
C'est qu'on a effectivement toute une zone de la surface de la Terre qui actuellement est très peu couverte. On n'a pas d'observatoire entre Loukamden et Ntoto dont on va parler un peu
en
plus
Éthiopie,
tard.
En Éthiopie, absolument. Où il y a un observatoire en Afrique de l'Est et voilà. Il y en a au Maroc.
Et l'Afrique du Sud. Et entre les deux, il n'y a rien. De professionnels en tout cas.
D'où la place du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest en tout cas, pour justement faire partie de ceux qui observent le ciel et ne pas être exclus et ne pas non plus exclure les autres de ce qu'on peut observer à partir d'ici, Maram Kéré.
Tout à fait. Alors, deux choses par rapport à ça. On a la chance quand même d'avoir un ciel qui est assez, je dirais pas très pur, mais qui est assez quand même différent de ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, en Europe, où la luminosité, les lumières de ville et autres peuvent gêner aujourd'hui les observations en astronomie. Ici, au Sénégal, on a des zones qui sont vraiment dégagées de toute pollution lumineuse et qui peuvent donner de bons résultats pour la recherche en astronomie. Deuxième chose, on se trouve géographiquement, on se trouve dans une zone quasi équatoriale. Et ça nous permet, dans la même soirée, de pouvoir observer des objets du ciel qui se trouvent dans dans l'hémisphère nord, et bien plus tard, 4 heures du matin, vous avez l'hémisphère sud avec des constellations qu'on ne peut pas voir à partir de la France, par exemple.
On peut voir les deux en même temps.
On peut avoir les deux en même temps. Donc, dans la même soirée, vous avez l'étoile polaire d'un côté et quelques heures plus tard, vous avez la croix du sud, le scorpion avec... voilà. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. Si on a des infrastructures, ça permet de pouvoir multiplier les recherches dans les deux hémisphères et de pouvoir donc bénéficier d'un ciel qui n'est pas très pollué pour le moment côté luminosité.
Un ciel qui attire même les astronomes de la NASA venus en cette première semaine d'août observer depuis le Sénégal l'occultation d'un objet céleste qui servira de guide à la sonde New Horizon, une mission astronomique à laquelle ont participé nos invités Maram Kéré et David Baratou à Dakar, sous les étoiles exactement. Mélodie Gardot sur RFI.
Paris 89 FM.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rodo, lado.
Étoiles sous le ciel de Dakar où nous sommes, sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop, dans le laboratoire de géologie de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, en compagnie du géologue et planétologue David Baratou, directeur de recherche à l'IRD, et de Maram Kéré, président de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal. Une passion astronomique que Maram Kéré défend de tout cœur passionnément et depuis longtemps, la preuve avec cet extrait de la première édition des Pluies d'étoiles à Dakar. C'était en mai 2008, reportage sur RFI de Marie-Laure Josselin.
J'ai appris beaucoup de choses. Hein. On nous a montré les planètes, ceux qui sont petites et ceux qui sont grandes.
Je ne savais pas ce que c'était, mais aujourd'hui je suis vraiment émue parce que j'ai vu le soleil.
Si le soleil a ce diamètre-là de 1m40, voilà comment serait la planète Terre, à peu près de la taille d'une graine d'arachide.
Vous voyez quelque chose de petit point lumineux là? C'est Saturne, c'est la planète Saturne. Vous mettez bien votre œil au centre de Leclerc. Attends, je vais réajuster un peu.
Si, je vois la boule avec les anneaux.
L'espace est quelque chose de très mal connu au Sénégal. Les gens ne s'y intéressent pas. Là, nous constatons que de plus en plus, les gens s'y intéressent. De plus en plus, on cesse de diaboliser certains événements.
Comme quoi?
Quand il y a éclipse, vous dites aux personnes âgées du Sénégal là qu'il va y avoir éclipse, la première question qu'ils vont vous poser, c'est quels sont les versets du Coran qu'il est recommandé de réciter. Parce que c'est un événement qui est vraiment diabolisé et tout ça.
Ça me fait un peu tourner la tête, quoi.
Et moi aussi. Ça m'engage de savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus des cieux, quoi. Je sais pas.
Maram Kéré, je vous ai vu sourire pendant ce reportage. Ça vous rappelle des choses, vous voulez réagir?
Écoutez, énormément de choses. C'est l'ambiance même des soirées d'observation que nous avons et le festival Plus d'étoiles sur Dakar. C'est vrai que c'était le plus grand festival qu'on a organisé sur site ici à Dakar. 5 jours d'astronomie à plusieurs endroits avec une soirée à Gorée. À la limite, les populations ne voulaient même pas rentrer. On est resté jusqu'à 5h du matin. Et quand j'entends les témoignages, ça me rappelle effectivement beaucoup de choses. La passion, l'enthousiasme du public. Et c'est juste merveilleux.
Il y a aussi un festival à Saint-Louis, hein, Saint-Louis sous les étoiles. Il y a aussi une caravane, un bus spatial. Et il y aura bientôt une prochaine nuit des étoiles ici à Dakar, Maram Kéré.
Oui, alors le festival Saint-Louis sous les étoiles, c'est le premier qu'on a mis sur pied, donc avec le soutien de l'ambassade de France, l'Institut français donc, qui est à Saint-Louis, l'Université Gaston Berger, et nous avons pu donc sur une dizaine de jours faire un grand festival à Saint-Louis. Les écoles, l'université s'est impliquée et on a pu faire venir pour les autres éditions plusieurs experts, des astrophysiciens, des astrophotographes qui ont participé à cet événement. La dernière édition s'est tenue cette année, en 2017. Il y a eu une petite interruption faute de budget de 2 ans. L'autre projet dont vous parlez, c'est le Space Bus, donc le bus de l'espace. À ce jour, on peut dire que c'est la plus grande campagne de promotion de l'astronomie et des sciences de façon générale organisée en Afrique.
Qui traverse tout le pays?
On a fait le tour du Sénégal pendant 1 mois, sans interruption. 14 des grandes villes du Sénégal et une équipe de 45 personnes, donc dans un bus avec les télescopes, des expériences en physique amusante, de mathématiques et une équipe hyper motivée, 6 astrophysiciens de l'Observatoire de Paris ont participé à cette édition.
Oui, ça c'est vraiment en collaboration. Il y a une communauté dans l'astrophysique, dans l'astronomie. Face au ciel, on est tous sur la même terre et on le sent bien. Et quel que soit le niveau des chercheurs, hein, d'ailleurs.
Exactement. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, en fait, c'est leur promptitude à dire oui, on participe. Dès qu'ils ont reçu le projet, je pense qu'il n'y a même pas eu de réflexion là-dessus. Ils ont tout de suite compris les enjeux et ils ont rejoint notre dispositif. Et pendant 1 mois, on a partagé l'astronomie à travers le Sénégal, des soirées avec 2000, 3000 personnes autour de nous, c'était magnifique.
Reste plus donc, comme on disait en première partie, qu'à construire un observatoire ici au Sénégal. C'est en bonne route tout de même, Maram Kéré, premier observatoire d'Afrique de l'Ouest.
Oui, en très bonne route et grâce au soutien du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation,
Marie
Taounian, qui, il faut le rappeler,
qui est même mathématicien.
Mathématicien, l'un des plus grands mathématiciens, je pense, du continent, reconnu par ses pairs et en même temps passionné d'astronomie, qui a très bien compris en fait les enjeux par rapport au développement de cette science en Afrique et qui a accepté donc la construction au sein des projets du ministère à Diamniadio du premier observatoire. Donc le matériel est déjà acquis.
Juste à côté de Dakar, dans la région près du nouvel aéroport.
Voilà, près du nouvel aéroport, c'est à peu près à 40 km en sortant de Dakar. C'est une nouvelle ville, une nouvelle cité au sein de laquelle il y aura ce qu'on appelle la cité du savoir. Et dans cette cité du savoir, donc il y a la maison de la science qui va abriter un planétarium pour la vulgarisation et l'observatoire en même temps. Donc,
ça va être à la fois la vulgarisation et en même temps le travail d'observation pour les chercheurs.
Exactement. Maintenant, on développe d'autres projets dans le cadre privé pour un observatoire qui devrait être à Mbour, qui serait de la même dimension en fait que l'observatoire de Diamniadio. Plus largement, c'est vraiment un réseau qu'on est en train de vouloir mettre au Sénégal, un réseau de télescopes. On devrait en avoir un à Saint-Louis au nord, un au sud à Ziguinchor, au centre à Bambey, il y a une université qui est là-bas, ce qui nous permettrait d'avoir au moins 4 ou 5 télescopes de recherche recherche en astronomie astrophysique. Donc ce serait un mélange entre des projets privés et des projets du ministère de l'enseignement supérieur.
Pour développer l'astronomie ici en Afrique de l'Ouest, autour de la question quelle astronomie pour l'Afrique, je propose de partir direction l'Afrique de l'Est avec un pays justement qui vous inspire particulièrement, c'est l'Éthiopie. Le premier grand observatoire d'Afrique de l'Est y a été construit à Ntoto. Il est opérationnel depuis 2015. C'est une première étape vers le programme spatial dans lequel a décidé de s'engager l'Éthiopie. Notre reporter Charlie Dupuy a rencontré sur place, à Addis Abeba, le professeur d'astrophysique Solomon Bellet qui a fondé cet observatoire. Visite guidée tout de suite par l'ingénieur mécanicien de la station sur place, Eyoas Egatou.
Nous sommes sur le mont Ntoto, à 20 km d'Addis Abeba.
Et alors on commence à apercevoir l'observatoire qui est composé en fait de deux dômes en métal gris.
Les dômes servent à recouvrir et à protéger les télescopes. Nous en avons deux ici, deux télescopes identiques. Ils sont comme nos grands yeux vers le ciel. Rentrons à l'intérieur.
Solomon Bellet, vous êtes professeur d'astrophysique et directeur fondateur de cet observatoire. À quelles difficultés vous avez dû être confronté ?
Pendant longtemps, nous n'avons reçu aucun financement public. C'est simple, il n'existait aucune politique spatiale. Il a fallu convaincre les autorités. Le gouvernement s'intéressait alors surtout à l'agriculture, en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Mais nous leur avons dit, nous ne pourrons pas atteindre cette sécurité alimentaire sans la technologie. C'est impossible d'éradiquer la pauvreté si on ne développe pas les sciences chez nous. Cela a pris 11 ans pour les gagner à notre cause. Le principal objectif de notre observatoire, c'est de renforcer nos capacités, c'est-à-dire pouvoir enseigner, former les jeunes Éthiopiens et les Est-Africains à l'astronomie, à l'astrophysique et à l'observation de la Terre. Et si vous comparez notre observatoire à d'autres en Europe ou ailleurs, vous verrez que le site que nous avons choisi est plutôt avantageux, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. En raison de l'altitude élevée aussi, ici nous sommes à 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous avons environ 230-240 jours d'observation par an. Dans les prochaines années, nous prévoyons d'ouvrir un second grand observatoire international dans le nord du pays.
Inspire cet éclairage du professeur Solomon Bello, directeur et fondateur de cet observatoire astronomique en Éthiopie, tout près d'Addis Abeba, David Baratou.
On ne peut que se réjouir de voir que les premiers observatoires voient le jour sur le continent africain. Et alors, je connais personnellement mal en fait cet observatoire d'Ntoto, mais ça m'évoque un autre observatoire qui est aussi une aventure dont j'ai envie de parler à cette occasion, qui est l'observatoire de Loukamden au Maroc, qui a aussi une longue histoire. Et c'est grâce au professeur Zouer Ben Khaldoun qui a porté ce projet sur aussi un grand nombre d'années.
Oui, c'est compliqué à monter des projets pareils.
Et qui a su aussi ensuite, et c'est important, identifier et se faire accompagner par des collaborations internationales pour identifier les problématiques scientifiques sur lesquelles il a pu contribuer et produire une science du haut niveau qui a pu être publiée dans des journaux de très grande qualité, comme Nature, comme il s'est illustré récemment avec la découverte d'exoplanètes, par exemple, ou la découverte de comètes. Donc produire une science qui vraiment marque et fait un impact dans la communauté scientifique, c'est possible grâce à cet observatoire qui est plus petit même que l'observatoire de Ntoto.
Donc ce n'est pas qu'une question de moyens, il faut évidemment des financements, mais ce n'est pas qu'une question de moyens. Et on peut faire de la science sur le continent qui apporte vraiment au monde entier et qui fasse que les scientifiques africains intègrent enfin la communauté scientifique mondiale.
La démonstration est faite avec ce type d'observatoire et c'est une source de fierté pour le Maroc. La couverture médiatique dans la presse a été importante lors de ces découvertes. Donc chaque Marocain a pu se saisir avec fierté de la science produite par les chercheurs marocains.
Donc s'inspirer de ce modèle marocain, j'en profite aussi, David Baratou, pour rappeler que vous êtes géologue, donc de formation, vous étudiez la planète rouge, Mars, mais vous étudiez ici, sur le continent en Afrique, les terres rouges d'Afrique, parce qu'elles nous apprennent des choses, c'est ça, sur les terres rouges de Mars ?
Alors oui, c'est un parallèle que je faisais entre effectivement la couleur rouge de Mars et la couleur rouge des terrains que l'on rencontre quand on fait du terrain en Afrique de l'Ouest, par exemple, des sols riches en fer oxydés qu'on va retrouver sur Mars, mais plus généralement, l'Afrique a un énorme potentiel
potentiel pour la géologie planétaire. Aujourd'hui, quand on étudie Mars, quand on étudie Mercure, Vénus, la Lune, on a besoin de comparer avec des objets parfois un petit peu exotiques, parfois un petit peu inhabituels pour le géologue, je dirais, standard, comme par exemple un cratère d'impact. Et le continent africain a de nombreux cratères d'impact qui sont parfois encore peu étudiés.
D'impact de météorites. Hein,
d'impact de météorites, voilà. Oui. Et c'est un potentiel scientifique très important qui reste à découvrir, qui reste à explorer et qui peut apporter des contributions scientifiques de tout premier ordre.
Je vois les yeux du géologue que vous êtes qui s'allument, David Baratou. Maram Kéré, vous voulez réagir au professeur Salomon Bello. On l'a entendu parler de cet observatoire, donc Ntoto en Éthiopie. Il a mis 11 ans pour le monter, des questions de financement. Puis maintenant, il faut entretenir aussi un observatoire pareil. Ça pose des questions ici au Sénégal, bien sûr. Monter des observatoires, un en construction, deux, bientôt cinq, dans tout le pays, c'est pas évident.
Écoutez, on s'est lancé pour le moment dans des projets qui ne coûtent pas très cher. Mmh. C'est des observatoires de vraiment petite taille, un peu à l'image de ce qu'on a à Loukemden
au Maroc,
comme David le disait, mais qui fait d'excellents résultats. Le cas de Ntoto, c'est un bel exemple de ce que doit être l'astronomie, en tout cas les infrastructures en astronomie sur le continent. Je cite souvent cet exemple quand je discute avec des autorités ici. Le patron de la NASA s'est déplacé en fait pour visiter cet observatoire. Et en termes de collaboration au niveau de la recherche internationale, c'est des enjeux qui sont énormes. Et au-delà des résultats, je pense que même c'est le pays qui gagne en fierté par rapport à cette collaboration internationale, d'où la nécessité d'avoir des projets de ce type se multiplier un peu partout sur le continent. Alors, je comprends très bien ce que disait Salomon Bello tout à l'heure par rapport au financement. On a un projet de construction d'un observatoire. Je pense que les projets d'ailleurs que nous avons aujourd'hui sont partis d'un premier projet de construction d'un observatoire d'un mètre de diamètre, donc équivalent d'un des télescopes de ce que nous avons en Éthiopie. Ce projet écrit depuis 2008, mais on n'a pas le financement. Par rapport à ça, on est en train de déployer peut-être les ressources dans une autre logique, c'est de faire des observatoires de petite taille, mais qui donneraient également des résultats pour la recherche. Si on a le financement, je pense qu'on n'hésitera pas. On pense déjà à la région de Kédougou, qui est au sud du Sénégal, avec un relief un peu plus intéressant pour mettre un observatoire. Un observatoire donc d'un mètre pourrait voir le jour au Sénégal, dans la région de Kédougou.
Autour de la question, quelle astronomie pour le continent en général et pour le Sénégal en particulier, on écoute Ismaël Lo, c'est votre choix, Maram Kéré, Jamou Africa.
Africa. RFI à Paris, 89 FM. Africa.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, mon isunyunatangé.
Ismaëlo nous inspire ici à Dakar sur RFI, c'est votre choix, Maram Kéré, on le partage.
C'est un cri du cœur en fait, et c'est une chanson que j'écoute souvent. Pour moi, l'unité africaine, c'est une nécessité. Il faut vraiment qu'on s'y mette avec tous les moyens nécessaires. D'une part, d'autre part, un message fort qui lance à la diaspora également, ne pas oublier le continent. C'est un chantier qui est là ouvert et chacun a sa contribution. Aujourd'hui, vous avez des Sénégalais, des Maliens, des Béninois ou même des Burkinabés qui sont un peu partout dans les grandes sphères de décision, hein, au niveau international, dans les centres de recherche. Il faut juste qu'on pense à parfois regarder dans le rétroviseur et penser au continent, venir tous contribuer au développement. Et je dis souvent que le développement de l'Afrique passera inévitablement par les sciences et les technologies. Et il faut qu'on s'y mette dès maintenant, ne pas avoir trop de retard. On a les pistes de solutions, il faut qu'on les exploite tout de suite.
Et il y a de quoi faire ici sur le continent. Il y a un vivier d'étudiants qu'il faut former. Voilà pourquoi aussi vous voulez qu'il y ait des filières en astronomie, en astrophysique à l'université. Et puis moi j'ai envie de dire, c'est aussi pour la beauté d'observer le ciel, pour la beauté de la connaissance. Je propose à ce sujet, autour de la question quelle astronomie pour l'Afrique et comment la partager, un dernier éclairage, c'est celui du regretté André Braik, célèbre astrophysicien, qui n'avait pas son pareil également pour partager son enthousiasme astronomique pour l'observation du ciel. Il nous avait confié en 2012 son plus beau souvenir d'astronome, lui qui vivait comme vous, Maram Kéré, la nuit pour observer le ciel. On écoute André Braik.
J'ai eu une expérience extraordinaire, c'était dans 2006. J'étais allé voir une éclipse de soleil au milieu du désert du Ténéré, un endroit où il n'y a pas une lumière, au nord du Niger. Eh bien là, bon, moi qui suis habitué à aller dans des hôtels avec souvent beaucoup d'étoiles, je suis astronome, c'est normal, hein. Eh bien, il n'y a pas d'hôtel là-bas. On couche à la belle étoile, en quelque sorte. Eh bien, je peux vous dire que j'ai eu l'émotion de ma vie. C'est-à-dire, et le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire la chose suivante. Aller dans un endroit où il n'y a pas une seule lumière à des dizaines de kilomètres de distance. Une simple bougie située à quelques kilomètres est plus lumineuse que ce que vous avez envie de voir dans le ciel. Donc, il faut habituer vos yeux à l'obscurité totale. Ne prenez pas une lampe électrique, ne regardez pas une carte du ciel. Mettez-vous dans le noir complet. Une nuit où il n'y a pas de lune. Ce que vous constatez, c'est que vous ne voyez plus la Terre à un moment donné. Dans ce désert, je ne voyais plus la Terre. Je ne voyais plus que le ciel. Autrement dit, je flottais dans l'espace. Et là, j'ai compris les sentiments qui ont animé nos ancêtres, il y a de cela 2 ou 3 000 ans, qui se sont dit, mais qui sommes-nous? Mais où allons-nous? Est-ce qu'il y en a d'autres? Les questions fondamentales qui sont à la base de toute notre philosophie. Et chaque civilisation, qu'il s'agisse de la Polynésie, des Esquimaux, de l'Afrique, de l'Asie, chacune a répondu à sa manière. Et toutes les contes, les légendes, les histoires, les mythologies, la métaphysique, la physique des hommes est née de regarder ce ciel sans aucune lumière polluante. Eh bien, je peux vous dire, si vous faites cela, mettez-vous loin d'une ville, mettez-vous loin des voitures, mettez-vous loin de la route, eh bien, vous aurez une émotion unique, ça changera votre vie. Et vous avez deux types de réactions, plusieurs types, mais la beauté, le questionnement, la curiosité, et pour aller plus loin, eh bien, on se pose les grandes questions, et chacun sait que les grandes questions, c'est lutter contre l'obscurantisme qui, hélas, nous envahit de plus en plus.
Qui veut réagir à ce bel éclairage lumineux de l'astrophysicien André Braik pour lutter contre l'obscurantisme? Il n'y a rien de tel, hein, que la connaissance et que de se poser les grandes questions en regardant le ciel. Maram Kéré.
Je suis parfaitement d'accord. André Braik était quelqu'un de captivant quand il parle d'astronomie, et son travail, sa contribution à l'astronomie est immense. Ses travaux sur Saturne, les missions Cassini-Huygens et autres, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Moi, j'avoue qu'il m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune avec Hubert Reeves. Et Hubert, j'ai eu la chance de le rencontrer ici au Sénégal. Il est venu nous voir pendant 5 jours. André, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais il a parfaitement raison. Le travail que nous faisons aujourd'hui sur le terrain, c'est lutter contre l'obscurantisme. Parler d'astronomie pour répondre à des questions qui sont là, mais très souvent pour ne pas laisser la place en fait à certaines considérations qui n'ont rien de rationnel et qui peuvent, si on laisse faire, prendre des dimensions à la limite, s'imposer même comme étant des vérités, alors que c'est à la base, c'est tout à fait faux. Donc je suis parfaitement d'accord, c'est tout un travail qu'il faut faire, et l'astronomie contribue à lutter contre cet obscurantisme.
Quel serait votre plus beau souvenir à vous, Maram Kéré, de nuit étoilée sur le continent, d'observation, un moment que vous pourriez nous faire partager ici, depuis l'Iffan à Dakar?
Peut-être le premier soir où j'ai fini la construction de mon télescope à à Saint-Louis. Et le premier soir où j'ai tout terminé et que j'ai pointé sur la Lune, se rendre compte des défauts qu'il y avait au niveau du miroir et autres, mais au moins ça fonctionnait. J'arrivais à voir quelque chose et ça, c'est un plaisir immense. L'autre chose, je pense que ça a été la caravane Space Bus. Quand vous faites le tour du Sénégal et vous voyez tous ces jeunes qui vous disent « je veux devenir astronome mmh. » juste parce qu'on a regardé derrière un télescope. Une mère de famille qui me dit « écoutez, ça fait 3 mois que j'attends la caravane parce que je veux que mes enfants deviennent des astronomes. » Et chaque jour est une expérience unique. Donc,
Et c'est vrai que les astronomes, quand vous voulez passer une astronomie, ils savent vraiment partager, nous donner le virus en fait. David Baratou, vous voulez réagir à la fois à l'éclairage d'André Braek et puis peut-être partager avec nous un grand souvenir de planétologue, de géologue.
Évidemment, André Braek, il a aussi inspiré toute ma passion. En fait, quand j'étais gamin, je me rappelle avoir suivi ses conférences avec passion.
On a besoin de modèles aussi.
On a besoin de rencontres comme ça quand on est jeune. Et moi, après, c'était avec Audouin Dollfus que j'ai correspondu. Je me rappelle qu'à l'âge de 13 ans, il avait pris le temps de me répondre. C'était très touchant et c'est quelque chose qui a beaucoup inspiré la suite de mon travail et dans ma jeunesse. Alors, un souvenir, c'est peut-être plus un souvenir de géologue que j'ai envie de partager, parce que ça illustre aussi peut-être ma rencontre un petit peu récente avec l'Afrique de l'Ouest. Quand il se trouve qu'on fait du terrain en Afrique de l'Ouest, souvent on va dans les villages et aller observer les roches, on est obligé de demander l'autorisation au chef du village pour aller faire des prélèvements. Il se trouve que souvent les cailloux sont dans les villages, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très fréquent. Et j'ai été extrêmement touché de l'accueil qu'on a toujours rencontré dans ces villages. Quand on explique qu'on est là avec des étudiants, souvent pour transmettre la connaissance, que c'est un cycle. En fait, qu'eux, plus tard, seront professeurs et transmettront à leur tour ce savoir à leurs étudiants. Et ce message-là passe extrêmement bien, parce que très souvent, c'est eux qui savent où sont les observations importantes à faire et qui nous conduisent à des points d'observation qui sont essentiels pour nous.
Ils savent où sont les cailloux, les roches.
C'est une collaboration scientifique, quelque part, qui se passe là. Nos projets de recherche n'auraient pas lieu, ne se dérouleraient pas de bonne façon si cet accueil dans les villages n'était pas présent.
Donc l'accueil dans les villages, je ne sais pas si les roches qui sont ici dans ce laboratoire de géologie, elles proviennent justement de ces...
Certaines, de ces
travaux sur le terrain. Et puis rappelons aussi quand même, puisque cette initiative pour les sciences astronomiques et spatiales en Afrique est soutenue par de nombreux chercheurs du monde entier, rappelons aussi que ici à Dakar, c'est important de se sentir soutenu justement dans ces travaux, et c'est important de partager aussi la beauté des découvertes, la beauté du savoir, enfin tout ce que ça peut amener. Vous êtes dans une, tous les deux j'ai envie de dire, véritablement dans la transmission. David.
Mon rôle, en tout cas, moi, en tant que, je dirais, occidental en Afrique de l'Ouest, ça a été beaucoup d'ouvrir des portes ici. Simplement de donner accès à des informations, à des contacts, à des groupes de collaboration. Donc de mettre en relation, effectivement, des chercheurs ici, des étudiants, et de faciliter, en fait, des désirs qui existaient avant que j'arrive et qui existeront une fois que je serai parti.
Maram Kéré, oui, transmission. De toutes les sciences, de l'astronomie, de la passion. Ouais.
Toujours la transmission, création de vocation, pour résumer, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment, moi, mon travail, faire en sorte que les jeunes s'intéressent aux sciences de façon générale, que les parents comprennent la nécessité d'avoir une génération de scientifiques pour le développement du Sénégal, et d'autre part, que toutes les infrastructures qui sont en train d'être construites par l'État sénégalais, le ministère de l'Enseignement supérieur, puissent recevoir donc cette génération de scientifiques, que les chercheurs comme David puissent continuer à encadrer des jeunes passionnés. C'est tout ce travail qu'on est en train de faire. Et je peux pas en parler sans non plus remercier David pour le travail formidable qu'il fait sur le terrain. Il y a des rencontres parfois qui sont comme une baguette magique et qui déclenche pas mal de choses. Et voilà, on est dans cette logique-là de transmission du savoir, la vulgarisation vraiment à tous les niveaux et la création de vocation.
Il faut dire qu'on s'est rencontrés, si je peux me permettre, avec Maram pour observer un événement astronomique qui n'était observable qu'au Sénégal.
Au Sénégal.
Au Sénégal et dans d'autres pays.
Pour observer quoi? On va terminer là-dessus.
C'était un passage d'une comète sur Mars. L'observation elle-même n'a pas été un succès, mais on s'est rencontrés à ce moment-là et finalement les fruits de cette observation, ils sont aujourd'hui, quand on se retrouve ensemble autour de cette table pour parler d'astronomie.
Parce que vous vous êtes retrouvés pour observer le passage d'une comète sur Mars ici au Sénégal. Merci infiniment d'avoir partagé tout cela avec nous, d'avoir accueilli aussi ici à Dakar dans ce laboratoire de géologie Alifan Cheikhanta Diop. Nous soutenons évidemment l'initiative africaine pour les sciences planétaires et spatiales. Le lien est sur notre site et on fait appel à toutes les bonnes volontés et tous les chercheurs du monde pour venir vous rejoindre. Nous reviendrons, j'espère, en parler avec vous sous le ciel de Dakar. Merci à vous.
Demain, sous le soleil de Dakar, toujours, nous vous proposerons de réécouter l'entretien croisé entre l'historien et philosophe Achille Mbembe et l'économiste et écrivain Félouine Sarr autour de la question « Pourquoi des ateliers de la pensée à Dakar ?» Réalisation nomade signée Marc Fichet avec Olga Samsonov à Paris et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, amis auditeurs. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de tous les possibles sur RFI. Prochain journal dans une minute. RFI, la radio du monde.